Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée aux relations transatlantiques et à leur avenir. L'Europe encore et toujours ballottée et ses positions pour le moins délicates dans le flot mondial des actions qui se succèdent, dont elle est plus spectatrice qu'actrice et dans l'incapacité de faire entendre sa différence. Alors que d'aucuns posent la question de savoir si le logiciel européen n'est pas dépassé, plusieurs constats s'imposent. Premier d'entre eux peut-être l'affirmation que les enjeux de l'alliance entre les États-Unis et l'Europe n'ont jamais été aussi élevés. Lourde tâche que celle qui attend la nouvelle Commission européenne et particulièrement celle baptisée Commission géopolitique. Une approche unifiée des grands problèmes est-elle possible entre les deux rives de l'Atlantique? Quels sont les terrains d'entente? Quelles sont aussi les craintes d'une rupture? Nos invités, Nicole Niesoto, professeur du CNAM, chaire Union européenne, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, auteur de plusieurs ouvrages dont l'Europe indispensable aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Alexandra de Hoppscheffer, politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States, dont la mission est de renforcer le dialogue transatlantique sur un large éventail de sujets géopolitiques et économiques. Bonjour.
Bonjour.
L'affaire Soleimani constitue la troisième étape du divorce transatlantique sur le Moyen-Orient. La première fut la décision américaine d'envahir l'Irak en 2003 pour en déloger Saddam Hussein. Le deuxième divorce, celui de l'accord sur le nucléaire iranien dont les États-Unis se sont retirés. Donald Trump estimait que c'était un mauvais accord, là où les Européens s'étaient finalement beaucoup investis. Le raid américain du 3 janvier a pétrifié les Européens, déjà confrontés à la guerre sans fin en Syrie et à l'internationalisation du conflit libyen. Les Européens qui se voient reprochés par les Américains de ne pas être très aidants ont le profond sentiment d'être pris au piège, ne pouvant exprimer haut et fort ce qu'ils pensent pour des raisons à la fois militaires et commerciales, on va en parler. Impuissants, pris au piège, les Européens ont une marge de manœuvre finalement devenue très faible aujourd'hui. Nicole Niesoto.
Un point d'abord, vous avez parlé de trois divorces, mais vous êtes sympathique vis-à-vis des États-Unis, parce qu'en fait, on peut rajouter le divorce sur Israël, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël à l'encontre des positions normales de l'Alliance Atlantique. Et il y a eu aussi l'affaire de la Syrie, le retrait américain de Syrie qui a enclenché
l'intervention turque
contre les Kurdes. Donc, la diplomatie de Donald Trump accumule des décisions qui, normalement, devrait amener les Européens à réagir fortement. Et donc, ce qui me frappe dans cette crise transatlantique, c'est que justement, ce n'est pas une crise. Il y a une espèce de jeu très pervers et les Européens ne vont pas à la crise. Logiquement, ils devraient taper du poing sur la table en disant aux Américains « ça suffit, c'est terminé ». Si Donald Trump n'était pas sorti de l'accord sur le nucléaire en mai 2018, on serait en train de commercer avec l'Iran. L'Iran aurait été une puissance petit à petit surveillée mais réintégrée dans le concert des nations. Donc, la décision de Donald Trump est véritablement un coup de couteau dans le dos à la sécurité des Européens, à la prospérité des Européens, puisqu'il les menace de sanctions si leurs entreprises commerçaient avec l'Iran. Et moi, ce qui m'étonne, c'est la piètre réaction des Européens. Ce n'est pas leur impuissance, ce n'est pas leur absence. C'est le caractère extrêmement timoré de leur réaction, où même Emmanuel Macron se contente de faire des déclarations demandant l'arrêt de l'escalade, mais comme si l'Iran était responsable de l'escalade. Moi, je ne suis pas pro-iranienne, je ne suis pas pro-terroriste, je ne suis pas pro-général Soleimani, mais s'il y a une chose qui me semble évidente, c'est que les États-Unis ont voulu l'escalade. Et donc, moi, je souhaite la crise transatlantique. Je ne voudrais pas simplement la commenter. Je souhaiterais la voir éclater au grand jour, parce qu'il y a un moment où il faut que les Européens se rendent compte que leur allié sur ce dossier iranien est aussi leur pire ennemi.
Alexandra Dobscheffer.
C'est vrai qu'on s'est habitué, nous, Européens, finalement, à ne plus vraiment être consultés, voire plus du tout, par le président américain, surtout lorsqu'il s'agit de décisions aussi importantes que celle-ci et toutes les autres que vous avez citées au préalable. Donc, on est devenus un peu les gestionnaires des plans B des décisions de Donald Trump, ce qui est une position extrêmement inconfortable. On n'est pas consulté en amont, mais en revanche, on nous tend la main et on nous demande d'être tout d'un coup très actifs dans la phase après. après le discours de Trump, après la riposte iranienne cette semaine contre les bases américaines, c'était de dire il faut que l'OTAN renforce son rôle au Moyen-Orient. Alors c'est vrai qu'il n'a cessé de le répéter, notamment dans la lutte contre le terrorisme, parce que c'est quelque chose que les Américains souhaiteraient de plus en plus sous-traiter à nous, alliés européens, et en particulier à la France, qui là est vraiment dirige ces opérations de contre-terrorisme dans la région et notamment au Sahel. Et puis, il y a aussi ce que j'appellerais une stratégie d'usure de la part de l'administration américaine envers nous, alliés européens. Cette pression maximale qui n'est pas seulement exercée contre l'Iran via l'asphyxie économique de l'Iran, mais une pression maximale sur nous pour qu'on s'aligne sur les décisions américaines et notamment sur la question du retrait de cet accord nucléaire de 2015 pour soi-disant en renégocier à nouveau. Or, quand on est dans une posture de négociation, il faut un minimum de confiance entre ceux qui, soi-disant, doivent négocier. Là, il n'y a aucune confiance ni entre les Américains et les Iraniens, et il n'y a pas de confiance entre nous, Américains et Européens. Donc, l'idée de renégocier un soi-disant nouvel accord n'est juste pas possible dans les conditions actuelles. Et quand vous regardez la réaction, vous avez dit quels moyens on a par rapport aux États-Unis de réagir face à leurs décisions, à la réaction de l'Union européenne à l'assassinat de Soleimani et après aux ripostes iraniennes, c'était le chaos total. Vous aviez la Commission européenne, le Conseil européen, le Service d'action extérieure qui chacun envoyait des messages de manière complètement désordonnée. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui chacun ont essayé de jouer un rôle de médiateur. Merkel qui court ce week-end à Moscou pour parler avec Poutine sur l'Iran, mais également la Syrie et la Libye. Le président français Macron qui a effectivement appelé Rouhani, le président iranien, mais également le président Trump, mais également le président Poutine. Et puis au milieu de tout ça, on a un premier ministre britannique, Johnson, qui a voulu jouer le rôle de pont entre Washington et l'Europe, que, by the way, ils sont en train de quitter, et jouer ce rôle voilà, de médiateur. Donc, on a assisté à une réaction vraiment non coordonnée, qui, à nouveau, vraiment donne cette impression de manque total de vision commune pour cette région et aussi de vision commune sur comment gérer, justement, cet allié américain. Et ça, c'est quand même extrêmement regrettable.
Alors, Nicole Niesoto, vous parliez de piètre réaction. Alexandra Dubschafer évoquait la diversité des réactions. Qui peut le mieux, en Europe, éventuellement, taper du poing sur la table ?
Taper du poing sur la table, je pense que le président français l'a fait, déjà. Peut-être pas taper du poing sur la table, mais en tout cas, parler crûment sur la vérité de la relation transatlantique. Il l'a fait sur l'OTAN en disant que c'était une organisation en état de mort cérébrale. Oui. Je crois que l'OTAN est depuis longtemps dans une stratégie des apparences où tout le monde fait semblant de croire que ça marche, mais de toute façon, rien ne marche. Le président l'a fait sur l'Iran. Il a essayé cet été, pendant le sommet du G20 à Biarritz, de servir de médiateur. Ça n'a pas vraiment marché. Il a essayé, le président français a également essayé sur la Russie de sortir de cette impasse, entretenue quand même par une bonne partie des idéologues américains sur la menace russe, etc., en disant qu'on ne peut pas ad vitam aeternam ne pas avoir de relation avec un pays qui est sur notre continent. Donc il a essayé de proposer cette architecture de sécurité et de confiance, je crois, mais tout seul, sans prévenir ses partenaires européens à l'avance. Donc évidemment, il n'a pas été suivi. Donc je crois que la France l'a fait et a la capacité de taper sur la table. Simplement, la difficulté, c'est que le président français, il faut bien le reconnaître, est assez seul dans cette prise de position. Et ni Madame Merkel, qui fait très attention à son industrie automobile, ni les autres partenaires européens ne manifestent une réelle volonté de marquer le coup, voire de rupture avec les États-Unis sur cette affaire iranienne. Donc voilà, donc la France pourrait, mais elle est seule. Est-ce que tout seul on peut ? Moi, j'ai quelques doutes.
Et en sachant par ailleurs, Alexandra Dubschafer, que tout est évident, évidemment lié, c'est-à-dire que taper du poing sur la table, c'est aussi menacer un certain nombre de choses, et je pense en particulier aux questions militaires. La France a besoin du soutien des Américains au Sahel et ailleurs, donc tout cela est évidemment extrêmement délicat.
Oui, bien entendu, et on a vu que la France, d'ailleurs, par rapport à l'Allemagne ou même les Britanniques, a réagi justement à un moment à cette inquiétude qui était de peut-être voir un retrait américain d'Irak, puisqu'effectivement, sans les Américains en Irak, la lutte contre les résidus de l'État islamique ne peut pas continuer. Et vous l'avez rappelé, on est effectivement extrêmement dépendant des capacités aussi de ravitaillement, de renseignement américain dans notre propre lutte contre le terrorisme au Sahel. Et donc effectivement, oui, le Pentagone réfléchit depuis maintenant plus d'une année à petit transférer le fardeau de la lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique de l'Ouest, y compris le Mali, où nous sommes présents. Et ça aurait des répercussions directes sur notre capacité à pouvoir continuer sur le terrain. Mais moi, j'irais peut-être plus loin sur votre question sur la médiation et sur la diplomatie de crise de manière plus générale au Moyen-Orient. Moi, ce qui me frappe, c'est que la médiation, finalement, ne nous appartient plus à nous, Européens, ni au camp occidentale, si j'élargis, la diplomatie de crise se fait ailleurs. Elle se fait en dehors du camp occidental. La preuve, c'est que le président Macron, Merkel, se tourne qui vers Poutine? C'est quand même extrêmement frappant. Ça veut dire que Poutine, aujourd'hui, est considéré comme le principal médiateur en Iran, en Syrie, avec la Turquie, bien entendu, mais également de plus en plus en Libye. Donc, nous, c'est vrai qu'on se regarde un peu entre nous, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, la relation transatlantique, mais de plus en plus, on se rend compte que cette région-là nous échappe parce qu'on s'est désengagé petit à petit, notamment les Américains. Le fait que l'ambassade américaine a pu être attaquée de cette manière-là il y a quelques jours, c'est parce que Trump a décidé de réduire de manière drastique la présence diplomatique américaine sur le terrain et militaire également. Donc, les Américains n'ont plus vraiment la capacité à continuer à agir sur le terrain comme ils l'ont pu le faire précédemment. Quand on voit la Libye est devenue aussi un théâtre pour une guerre de procuration entre toutes sortes d'acteurs. On l'a vu avec maintenant le déploiement militaire aussi de la Turquie. On a l'Égypte, on a le Qatar, on a la Russie. Donc là, il y a une vraie question à se poser. On a créé cet espace politico-stratégique pour ces autres puissances. Et effectivement, vous avez rappelé la ligne rouge d'août 2013 qui n'a pas été suivie par Barack Obama. Cette ligne rouge a ouvert aussi les portes pour l'ingérence diplomatique, politique de la Russie en Syrie. Donc, on crée cet espace politique. Il ne faut pas après qu'on soit surpris que les dynamiques politiques interne à ces pays nous échappe finalement. Et l'interventionnisme militaire dans lequel on ne souhaite plus vraiment s'engager est maintenant devenu l'apanage d'autres puissances qui très souvent ne partagent pas nos intérêts stratégiques.
Nicole Niesoto.
C'est absolument vrai. Mais si ces autres puissances ne partagent pas nos intérêts stratégiques, il reste à démontrer que la puissance américaine partage nos intérêts stratégiques. Et ça n'est plus le cas. Quand on regarde la politique de Trump sur l'Iran, on a une politique qui est totalement contre-productive et contraire aux intérêts européens. Premièrement, l'assassinat du général Soleimani renforce le régime dur des Mollahs, alors que ce régime était contesté à la base depuis quelques mois par des centaines de milliers de gens dans la rue. Maintenant, tout le monde est pour le régime contre les États-Unis. Deuxièmement, renforce Daesh dans la région, puisque les États-Unis ont fait une espèce de pataquès sur restera pas, mais on a bien vu que les Allemands se sont retirés un peu, les Italiens aussi, les Français ont dit qu'ils restaient, mais on voit bien que tout le monde a quand même un peu peur, et du coup, qui est-ce qu'en profite? C'est Daesh. Troisièmement, la politique de Trump aboutit à ce que les Américains voulaient éviter, c'est-à-dire que l'Irak devienne une province de l'Iran. Et enfin, il met sur le devant de la scène le couple Poutine-Erdogan, qui deviennent les gestionnaires du Moyen-Orient, et après tout, je ne vois pas en quoi la politique de ces deux-là pourrait être plus contraire aux intérêts européens que ne l'est la politique américaine. Et quand on regarde vraiment la crise iranienne, il y a tous les ingrédients d'un divorce nécessaire des Européens avec les Américains. Il y a premièrement la trahison. Trump n'a pas respecté la parole d'Obama sur le traité de 2015, donc ça laisse à penser que l'article 5 de l'OTAN, peut-être qu'il pourrait ne pas respecter non plus cette parole écrite en 49. Il y a deuxièmement l'agression, l'extraterritorialité de la justice américaine contre les entreprises européennes qui voudraient commercer avec l'Iran. C'est une agression contre l'allié européen, c'est quand même très très fort. Il y a troisièmement, l'indifférence, c'est-à-dire le paradoxe des États-Unis, c'est qu'ils disent vouloir diminuer la menace iranienne, mais ils n'en sont pas victimes. Les premières victimes d'une radicalisation de l'Iran, ce sont les Européens. C'est nous qui sommes géographiquement près, c'est nous qui sommes potentiellement victimes du terrorisme. Et enfin, le cynisme absolu, parce que d'un côté, de façon purement unilatérale, ils se retirent de l'accord, ils bombardent, ils tuent le général Soleimani sans prévenir qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est une infraction au droit international caractérisé. Donc, d'un côté, l'unilatéralisme le plus absolu qui met en danger les troupes européennes sur place, et de notre côté, une politique de néo-isolationnisme où ils répètent depuis toujours « moi je veux partir, je veux pas m'impliquer dans les affaires ». Donc c'est vraiment le contraire l'attitude d'un allié. Et donc moi, je trouve que le couple Poutine-Erdogan, on a raison d'aller les voir, en tout cas pour ce qui concerne Poutine, et peut-être d'espérer une pacification de la zone que Trump non seulement ne peut pas donner, mais qu'il s'acharne à détruire.
Alors en tout cas, ce que je retiens de ce qui s'est dit jusqu'à présent, c'est finalement aujourd'hui, et on en est là, des deux côtés de l'Atlantique, Alexandra Dubcheffer, les visions stratégiques sont aujourd'hui très différentes.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a des visions stratégiques différentes. Si on regarde la région du Moyen-Orient, on partage cette volonté de...
Mais pour les Américains, l'affaire est close.
Pour les Américains, l'affaire n'est pas totalement close. Le fait aussi que très vite, ils sont revenus sur leur décision de se retirer ou pas de l'Irak en disant on va rester, ils se rendent compte quand même que la stabilité de la région est importante pour leurs intérêts. L'Amérique, effectivement, est devenue à partir de septembre 2019 un exportateur net de pétrole, ce qui est un tournant phénoménal dans l'histoire des États-Unis. Donc ça change effectivement cette idée de dépendance des États-Unis sur le pétrole du Moyen-Orient et donc leur dépendance stratégique de manière plus générale par rapport à la région. Mais ils ont encore terriblement besoin des soutiens de l'Arabie Saoudite, d'Israël et notamment dans l'optique de contenir cette menace iranienne. Soleimani, oui, effectivement, la méthode a été radicale. Elle a fait partie d'options qui ont été présentées par le duo Mike Pompeo, son secrétaire d'État, et Esper, son secrétaire à la Défense. Donc ça faisait partie des options. Il faut rappeler que cette option avait été présentée également à Obama et à Bush Junior, puisque ces attaques iraniennes contre les bases militaires, en fait, sont arrivées bien avant celles qu'on a vues au cours de ces derniers mois. Au moment où Obama a retiré les troupes américaines en 2011, il y a une douzaine de soldats américains tués exactement de la même manière, avec des roquettes. On a présenté à Obama le même panel de solutions. Il s'est dit, on va rester localisé, on va viser ces milices qui ont perpétré ces attaques. Bush Junior, exactement la même chose. Donc Trump a franchi le pas, je dirais, supérieur et s'est dit, on va toucher de manière radicale. Le problème, c'est que dans une situation aussi importante d'un point de vue stratégique militaire, il aurait fallu que cette relation transatlantique soit au centre de cette prise de décision. Et là, ce qui, moi, me dérange beaucoup, c'est qu'on est de moins en moins consulté, que Trump a cette particularité, effectivement, à prendre des décisions sans du tout intégrer les conséquences que ça peut avoir pour nos propres intérêts. Effectivement, d'un point de vue juste proximité géographique, nous sommes plus indirectement impactés par ces décisions américaines. Donc, on partage, je dirais, un diagnostic, en tout cas, sur les menaces qui agitent la région, mais on ne partage pas du tout la manière dont il faut les gérer. Et c'est ça qui ne va plus, c'est que cette relation transatlantique n'est plus du tout le forum au sein duquel devraient avoir lieu ces discussions d'ordre stratégique. Et c'est précisément pour ça que le président français Macron a utilisé ce terme de « brain dead », de mort cérébrale de l'OTAN, pour montrer à quel point cette OTAN s'était vidée finalement de sa substance. L'OTAN est devenue une grande organisation d'interopérabilité militaire, qui fonctionne plutôt bien entre alliés atlantiques, mais c'est plus le forum où a lieu les discussions politiques compliquées, avec la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, sur la relation avec la Russie ou sur le rôle de l'OTAN au Moyen-Orient. Donc c'est de remettre aujourd'hui le politique, le stratégique au cœur de cette alliance qui s'est beaucoup appauvrie sur ce point-là, à mon avis, pour une raison principale. Depuis le 11 septembre 2001, cette fameuse guerre contre le terrorisme dans laquelle on est tous impliqués a beaucoup appauvri le débat stratégique des deux côtés de l'Atlantique. Que ce soit l'émergence d'autres pays, que ce soit notre relation avec la Chine, avec la Russie, a été mise un peu de côté. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point ces enjeux sont devenus extrêmement importants.
On mettra l'accent dans la deuxième partie de l'émission, on n'a plus le temps de le faire, sur la tâche qui va incomber Nicole Niesoto, Alexandra de Hubschefer, à la Commission européenne et à la Commission géopolitique. On vous retrouve, Nicole Niesoto et Alexandra de Hubschefer, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les relations transatlantiques. Nous retrouvons nos invités, Nicole Niesoto, professeure du CNAM, chaire Union européenne, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et auteur de nombreux ouvrages, dont L'Europe indispensable aux éditions du CNRS, et Alexandra de Hubschefer, politologue spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States, dont la mission est de renforcer le dialogue transatlantique sur un large éventail de sujets. Nous avons largement abordé les dissensions qui ont cours aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe, et en particulier sur le Moyen-Orient. Nicole Niesoto, qu'est-ce que l'on peut attendre de la nouvelle Commission européenne et la Commission géopolitique nouvellement créée ? La présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, est une atlantiste. Est-ce qu'elle a un projet pour l'Europe dans ce qu'on évoque là, les relations transatlantiques ? Vous évoquiez tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, que vous souhaitiez une crise atlantique. Est-ce que la nouvelle commission peut être à même de tenir tête davantage à Donald Trump que la précédente?
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission géopolitique, entre guillemets? Ma réponse va être très claire, rien. Rien, pourquoi? Parce que la commission n'a aucun pouvoir, aucune responsabilité, aucun rôle en matière stratégique. Quand il s'agit de paix, de guerre, de réflexion sur la politique étrangère européenne, ce sont les États membres, donc le Conseil, et la Commission est là en appui. Mais on ne peut pas attendre de Madame von der Leyen, quelles que soient ses qualités, quelle que soit sa volonté de créer une Europe géopolitique, on ne peut pas attendre d'elle une position qui représenterait la position des Européens sur les relations transatlantiques. Donc il ne faut surtout pas donner l'illusion aux opinions que la Commission pourrait répondre, parce que ce serait rendre un mauvais service à Madame von der Leyen. Elle ne peut pas exprimer la position des Européens. En revanche, le haut représentant pour la politique étrangère, Josep Borrell, lui, qui est le haut représentant des États membres, peut exprimer une politique étrangère commune. Donc ça, c'est le premier point. Et juste encore pour terminer sur la commission géopolitique, quand on regarde bien ce qu'elle dit sur la commission géopolitique qu'elle voudrait créer, c'est une commission géopolitique au sens où, si je lis bien son texte, la menace climatique est devenue la première menace mondiale, et donc la Commission va prendre au sérieux la menace climatique dans toutes ses politiques extérieures, le commerce, l'environnement, etc. Et que donc, en cela, ce sera une commission géopolitique. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que les Français perçoivent, c'est-à-dire une commission qui prenne au sérieux la politique étrangère et la défense. Il y a un vrai malentendu là qui est en train de se créer entre la France et la commission géopolitique. Maintenant, pour en revenir aux Européens, les Européens sont divisés. Ils sont divisés parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont des histoires différentes. On ne peut pas vraiment parler de divergence. Il faut parler de différence. Il y a trois attitudes vis-à-vis des Européens. Il y a l'attitude, premièrement, du déni, c'est-à-dire non, Trump, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, il faut faire le gros dos. Dans quelques mois, il y a les élections, il va perdre. On va revenir au bon vieux temps des relations transatlantiques avec un président poli, normal, etc. Donc ça, une grande majorité des Européens sont dans ce déni du danger américain, en espérant des jours meilleurs après novembre 2020. Il y a la deuxième attitude en Europe qui est l'attitude de la résignation, qui est de dire oui, ce président américain est dangereux, irresponsable, mais on n'a pas le choix. Nous sommes dépendants militairement d'une Amérique qui nous agresse peut-être, mais dont on dépend totalement militairement. Donc, quoi qu'il arrive, tout est mieux qu'une crise avec l'Amérique. Et ça, c'est une attitude très répandue en Europe centrale, dans les pays baltes, les pays nordiques et même l'Italie. Et puis, il y a la troisième attitude qui est l'attitude du refus, du sursaut, du rebond, je ne sais pas comment l'appeler, mais où la couleuvre, la dernière couleuvre iranienne a du mal à passer, qui est de dire non, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Il ne s'agit pas de rompre avec l'Alliance Atlantique, mais de se donner les moyens d'avoir une autonomie par rapport aux folies américaines. Donc ça, c'est une attitude très minoritaire. C'est ça le problème. Elle est portée par la France, un peu parfois la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, mais c'est une attitude très minoritaire. Et du coup, ce qu'on peut attendre du Conseil et du haut représentant, que je trouve personnellement formidable, mais Josep Borrell, il est haut représentant, c'est-à-dire il ne peut pas prendre l'initiative de dire « ça suffit ». Il représente les États membres, et donc ces États membres sont divisés en trois, donc il est obligé de tenir compte des trois positions. Mais moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les Européens, en particulier sur le sauvetage de l'accord de 2015 sur la non-prolifération iranienne, que les Européens maintiennent leur position, maintiennent le consensus qu'ils ont avec la Russie et avec la Chine. C'est quand même pour la première fois dans l'après-guerre qu'on avait une position commune des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Union européenne, plus l'Allemagne. Il faut que les Européens maintiennent avec les Russes et avec les Chinois la nécessité de cet accord nucléaire et refusent de rentrer dans une tabula rasa que propose Donald Trump. Je crois que dans ce qu'a dit Donald Trump récemment, il y a deux non-starters. Il y a petit un, de reprendre à zéro les négociations nucléaires, parce que les Iraniens ne voudront jamais et les Européens non plus. Et le deuxième non-starter, c'est de voir l'OTAN plus impliquée au Moyen-Orient. L'OTAN ne peut tout simplement pas aller ni en Syrie, ni en Irak, et encore moins en Iran. Donc ça, c'est vraiment deux non-starters.
Alors, à tout cela s'ajoute, Alexandra Dobscheffer, la question du Brexit. Quelles conséquences pour la défense européenne ? On peut rappeler qu'après le Brexit, la France deviendra la seule puissance militaire majeure de l'Union européenne, disposant d'un arsenal nucléaire, d'un siège permanent au Conseil de sécurité, et d'une armée expérimentée qui est intervenue sur des points de crise un peu partout dans le monde. Est-ce que ça va être une nouvelle opportunité pour les Européens pour renforcer leur coopération avec les États-Unis ou pas ?
Ce qui est intéressant avec le Brexit, c'est que cet exercice d'équilibriste qu'est en train de faire Londres entre alignement stratégique avec Washington sur certains aspects, l'alliance traditionnelle avec Washington, et de l'autre côté, essayer de rester fidèle, en fait, à beaucoup de positions partagées avec ses homologues européens, notamment sur l'Iran, mais aussi le climat, est très, très difficile, en fait, à gérer. Et ça cristallise un petit peu ce travail, cet exercice d'équilibriste que chaque pays, comme Nicole Xoto l'a bien présenté, essaye de mettre en œuvre par rapport à la relation avec les États-Unis. Alors, quelles implications du Brexit ? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un président français, Emmanuel Macron, qui a cherché à anticiper aussi les implications d'un Brexit dans le domaine de la sécurité et de la défense, notamment en mettant en œuvre cette initiative d'intervention européenne qui coalise aujourd'hui une dizaine de pays en Europe, y compris la Grande-Bretagne, et qui cherche justement à créer une coalition de pays qui partagent à peu près la même culture stratégique, et c'est le cas en tout cas entre la France et la Grande-Bretagne, une certaine culture militaire, pour essayer justement de réfléchir à ce qu'est l'autonomie stratégique opérationnelle dans certains scénarios, notamment qui toucheraient notre voisinage sud, en Afrique, en Méditerranée, au Moyen-Orient, et dans des scénarios où Washington, comme ça a déjà été le cas, nous diront « non, ce n'est pas un intérêt vital pour nous ». C'est votre voisinage, à vous, Européens, à vous de le gérer. On a senti ça déjà un peu en Libye, où Obama est allé avec beaucoup de réticence soutenir le leadership franco-britannique à l'époque. Et on le verra de plus en plus. Donc là, on a la France qui prend l'initiative sur cette défense européenne, en dehors du cadre de l'Union européenne, puisqu'il est impossible de fédérer l'ensemble des pays européens autour de ce sujet. L'autre implication que je vois, c'est que, de facto, la Grande-Bretagne perdra de son influence auprès des institutions européennes dans le domaine de la défense et de la sécurité, même si on continue à coopérer de manière très forte sur le renseignement, la lutte contre le terrorisme, etc. Ce qui fait que, paradoxalement, finalement, les États-Unis, à mon avis, devront travailler peut-être de manière plus étroite avec l'Union européenne en matière de défense. Et c'est là où on voit qu'il y a, dans la vision washingtonienne sur les questions question de défense européenne, toujours cette ambiguïté entre nous demander de dépenser plus en matière de défense, c'est les fameux 2% du PIB en matière de défense militaire que nous-mêmes on a signé en 2014 au sommet de l'OTAN au Pays de Galles, donc on s'est tous mis d'accord sur cet objectif, mais là on a véritablement une vision américaine qui se limite à ce chiffre quand il s'agit de parler du partage du fardeau. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous demandent de penser plus ? Pour pouvoir acheter plus de matériel militaire américain. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'on ne pourra pas construire une Europe de la défense plus forte si nous-mêmes, on ne peut pas développer notre propre industrie de la défense. Et les États-Unis voient dans le marché de la défense européenne, et notamment leur hégémonie dans le marché de la défense européenne, une manière aussi de contenir la Chine. Donc tout ça fait partie un peu de cette vision géostratégique américaine par rapport notamment à cette domination de plus en plus prégnante de la Chine dans le domaine de la technologie, dans le domaine cyber, de plus en plus dans le domaine militaire, s'inquiète et nous voit, nous, Européens, de plus en plus comme un moyen de préserver leur hégémonie dans tous ces domaines. Et ça pose véritablement un problème. C'est un énorme, je dirais, une énorme épine dans cette relation transatlantique et c'est un sujet sur lequel les États-Unis ne souhaitent pas du tout changer de position et qui nous met dans une situation compliquée, puisqu'on est finalement dans une politique de chantage de la part de Washington. C'est-à-dire qu'on est presque dans une espèce de conditionnalité de la garantie de sécurité américaine, y compris autour de l'article 5 de l'OTAN. C'est-à-dire, attention, on ne va peut-être pas être tout à fait de votre côté si vous ne nous achetez pas plus de F-35, le fameux futur avion de combat américain, etc. Donc ce qui fait que là, à nouveau, ça nous divise, mais complètement en Europe. On a les pays scandinaves, les Baltes dont on a parlé, nos alliés à l'Est qui courent après les F-35 et achètent l'équipement américain et payent même la présence militaire américaine sur leur terrain, c'est le cas de la Pologne, en échange de quoi ils sont sûrs de se garantir la sécurité américaine. Et donc quand on est dans ce transactionnalisme et non plus dans un esprit d'alliance, de confiance mutuelle, on voit à quel point cette alliance et ce lien transatlantique se trouvent aujourd'hui ébranlés.
Alors, Alexandra de Schaeffer a prononcé ce mot chantage, Nicole Niesoto, il est vrai aussi ce chantage sur toutes les questions commerciales. On a vu, on voit les sujets de contentieux se multiplier. Il y a eu la surtaxation sauvage des aciers et de l'aluminium européen en 2018, celle plus récente, mais autorisée par l'OMC, de quelques 1700 produits européens pour un total de 6,8 milliards d'euros en rétorsion aux subventions accordées à Airbus. Il y a aussi les menaces de droits de douane supplémentaires sur l'automobile allemande, on l'évoquait précédemment, et sur le luxe français après la décision de Paris d'imposer une taxe sur les géants américains du numérique. Alors le ministre français de l'économie a dit s'être accordé avec le secrétaire américain au Trésor au sujet de la taxe française sur le numérique dans un délai de 15 jours, c'est-à-dire avant Davos. Priorité pour l'Europe aussi, ça en fait beaucoup, résoudre les conflits commerciaux avec les États-Unis.
Oui, mais si on prend les choses de façon un peu plus générale, tout ce que vous dites est effectivement très vrai et très étonnant. Mais quand un allié vous agresse sur le plan commercial, sur le plan climatique, puisqu'il s'est retiré d'un accord là aussi que son prédécesseur avait signé, sur le plan stratégique régional au Moyen-Orient, il est quand même aberrant de ne pas en tirer des conclusions. Alors moi, je comprends très bien que les Européens n'ont pas les moyens de se défendre aujourd'hui contre la Russie et que cette espèce de piège atlantique se referme sur eux. Ils n'osent pas hausser le sourcil devant les attitudes d'un Trump. Mais les Européens sont doublement piégés, d'une part parce qu'ils veulent croire que l'Amérique continue de les défendre alors qu'il n'y a aucune automaticité dans l'OTAN pour que l'Amérique les défende. C'est dans le traité. Il n'y a pas d'automaticité de la riposte américaine. Mais donc, ils sont piégés par l'angoisse de l'abandon et ils sont piégés par toutes les couleuvres qu'ils doivent avaler, en particulier les couleuvres commerciales, etc. Donc, je me demande jusqu'où le vase va-t-il être trop plein avant que les Européens se décident à une réaction. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de quitter l'OTAN, il ne s'agit pas de dire on ne veut plus de relations avec les États-Unis, mais il s'agit de dire, bon ben voilà, à partir de maintenant, on fait ça, 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 on a un calendrier, on a une stratégie, et si les Américains ne sont pas contents, on rétorquera. Donc je crois que la stratégie du chantage est quelque chose qui, entre alliés, ne devrait pas être acceptable. De même que la stratégie de l'incertitude, parce que ce que vous dites est vrai sur le chantage, mais je crois que Trump et comme Poutine, leur politique européenne consiste à maintenir les Européens dans l'incertitude. Poutine nous maintient dans l'incertitude sur sa menace, et donc on a besoin des Américains parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire sur les Baltes, etc. Et Trump nous maintient dans l'incertitude sur sa protection. Et donc on n'ose pas aller trop loin dans la défense européenne, parce que si on va trop loin dans la défense européenne, les Américains vont nous dire « bon ben bravo, très bien, ben nous on s'en va ». Et donc on a cette collusion américano-russe pour maintenir l'Europe dans une incertitude stratégique, de façon à ce que l'Europe n'existe absolument pas sur le plan politique. Encore une fois, donc c'est un piège atroce. Alors sur le plan commercial, je pense qu'on va continuer de voir à la fois les sanctions américaines et puis les réponses européennes, parce que les dernières sanctions dont vous avez parlé sont effectivement validées par l'OMC comme une compensation aux subventions que l'Europe a données à son industrie aéronautique, mais il y a évidemment l'inverse. Les Européens vont attaquer devant l'OMC pour les subventions que les États-Unis ont données à Boeing. On va sans doute gagner et il y aura de nouveau une surenchère à la sanction. Ça n'est pas une façon de gérer les relations d'alliance. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu souvent des crises transatlantiques. On a eu en 86 la crise sur les euromissiles, où là c'était la rue européenne qui s'opposait au gouvernement de l'Alliance. On a eu en 2003 sur l'invasion de l'Irak par les États-Unis, et là c'était une crise à la fois euro-américaine et euro-européenne. Mais jusqu'à maintenant, on avait des crises transatlantiques qui portaient sur des politiques. Aujourd'hui, on a une crise qui porte non pas seulement sur des politiques, mais sur les fondements même de la relation transatlantique. Quels sont ses fondements? Ben, c'est les fondements que l'Amérique a inventés elle-même en 49, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui sont le libéralisme économique, la démocratie et les droits de l'homme et le multilatéralisme. Or, Trump remet en cause ces trois fondements au nom du protectionnisme, du populisme et de l'unilatéralisme. Et donc, on touche l'os de la relation transatlantique. Et c'est pour ça que je crois que ces atermoiements européens, que je comprends, je pense que c'est une solution qui ne peut pas durer. Quand on atteint l'os, à un moment, on est obligé de prendre une décision chirurgicale.
Donc finalement, la question que vous posez, Nicole Niesoto, est de savoir si finalement l'Alliance Atlantique existe encore.
Elle existe dans l'absolu, dans le paraître.
Bien sûr.
Mais non, elle peut continuer comme ça pendant des années, ça n'a aucune importance.
Elle existe encore, mais si on pouvait résumer Trump et son America First, l'Amérique d'abord, il incarne en fait la fin de l'hypocrisie américaine. Mmh. C'est ce que vont vous dire ses plus proches conseillers. Ils vont vous dire, bah voilà, vous voyez, ça fait 70 ans, ça fait qu'on vous a fait croire que nous, Américains, on vous était des promoteurs de la démocratie, des droits de l'homme, de cet ordre libéral international. Eh bien, finalement, et c'est vrai, on a toujours défendu nos intérêts d'abord, y compris au sein des institutions multilatérales. On voit le jeu que joue Trump au sein de l'OMC, où effectivement on a parlé de ses sanctions, donc il a gagné contre Airbus, donc tout d'un coup l'OMC devient intéressante, et le lendemain elle devient ultra agaçante parce qu'elle est complaisante, soi-disant, avec la Chine. Donc l'Amérique a toujours défendu ses intérêts d'abord. Moi, ce qui me frappe avec Trump, mais ça a commencé avec Obama, c'est qu'il y a une volonté de désengager les États-Unis de son rôle de gendarme du monde, mais militaire principalement. En revanche, il joue à fond le rôle de gendarme économique et financier sur le plan commercial, des sanctions, l'extraterritorialité. Tous ces instruments-là sont utilisés comme des moyens de pression énormes contre nous alliés, mais aussi contre les rivaux. C'est là où on a vraiment une difficulté à gérer, parce qu'on n'a pas, nous, de contre-instruments à lui imposer. Mais moi, ce que je vois se dessiner, parce qu'il y a la Chine quand même, qu'il ne faut pas oublier, qui est omniprésente dans la vision stratégique aujourd'hui que porte Washington sur le monde. C'est un nouveau, ce qu'on pourrait appeler, grand marchandage transatlantique, où d'un côté, les États-Unis vont dire « on accepte de rester un membre fidèle de l'Alliance Atlantique au sein de l'OTAN, mais on va vous demander de continuer à dépenser plus ». le prochain président américain, même si c'est pas Trump, sera de toute façon plus protectionniste contre le principe du libre-échange et voudra contenir la Chine. Donc il y aura une continuité que nous, Européens, on doit déjà acter. Donc nous, on va rester fidèles, donc les Américains, à l'Alliance Atlantique, mais en échange, on va attendre des alliés européens qu'ils restreignent l'accès chinois aux hautes technologies de pointe et qu'ils s'abstiennent de lui vendre des biens qui pourraient avoir des applications militaires directes. Donc on a ce marchandage entre les États-Unis et la Chine.
La Chine, dont il sera beaucoup question dans l'émission de demain, sur les enjeux géopolitiques de la technologie numérique. Donc voilà, je vous invite à écouter l'émission. Merci Nicole Niesotto. Je rappelle que vous êtes professeure du CNAM, chaire Union européenne et vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, également auteur de plusieurs ouvrages, dont L'Europe indispensable aux éditions du CNRS, et Alexandra de Hoopscheffer, politologue spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À demain. En partenariat avec la